Go, go, la revue presse JB.
Bonjour, moi c'est Bruno Roca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeux vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et tous, ou bonsoir, hein, quel que soit l'heure où vous écoutez ce merveilleux podcast qu'est la revue de presse JV. Heureux de vous retrouver. Oui, la semaine dernière, donc, il n'y a pas eu d'émission. Je suis désolé, l'emploi du temps en ce moment est vraiment très compliqué pour moi. Voilà pourquoi cette semaine, on va encore avoir une structure de l'émission qui change un petit peu. Il n'y aura pas de jeu de la semaine, etc. Mais bon, il y a quand même beaucoup de contenu, hein. Il fallait que je me fasse pardonner malgré tout, et voilà, je fais en sorte effectivement que ce soit côté vie privée ou côté travail, vraiment c'est très chargé, mais voilà, je fais vraiment en sorte hein, de vous livrer la meilleure émission possible. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas, que votre week-end s'est bien passé, que la semaine qui arrive se passera tout aussi bien. Après une belle brochette de news de derrière les fagots, hein, comme on dit, je vais vous parler de la Xbox Series X ou Series X. Hein. Bien sûr, beaucoup d'infos sont tombées là récemment, donc on va faire un petit peu le point là-dessus. On va faire aussi le point sur Resident Evil 3 Remake, parce que j'avais envie de vous en parler, notamment grâce à l'excellent site Biohazard France. Voilà, il y a des infos qui sont assez sympatoches, voilà, et qu'on a envie de se mettre sous la quenotte. Coup de cœur, des tipeurs, pas mal de petites choses. Un bien beau programme donc, et ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite avec la brochette de news. Nous allons commencer avec le coronavirus. Alors, vous en avez peut-être très certainement méga archi-marre, on en parle partout, etc. Alors, à juste titre, parfois on en fait peut-être un peu trop, parfois pas assez. Chacun a son jugement là-dessus. C'est pas le but de l'émission hein, d'émettre une analyse sur le coronavirus, mais il y a un impact sur le milieu du JV. Voilà pourquoi je vous en parle dans cette émission. Puisqu'après les absents hein, de la PAX East 2020, qui s'est terminée là il n'y a pas très longtemps, la GDC, la Game Developer Conference 2020, a été repoussée. Elle n'aura effectivement pas lieu à la date prévue. C'est GameCult hein, qui nous parle de ça et qui nous rappelle hein, qu'au départ il ne s'agissait que de PlayStation et Oculus, mais donc les organisateurs de la GDC 2020 ont dû se rendre à l'évidence hein, avec l'avalanche d'annulations, que ce soit avec Microsoft, Electronic Arts, Activision Blizzard, Kojima Productions, Epic Games, Unity, Amazon, Iron Galaxy Studios, PUBG Corporation, mais aussi une dizaine d'entreprises chinoises. San Francisco nous rappelle GK hein, qui a décrété l'état d'urgence hein, face à une possible propagation du coronavirus, donc n'accueillera pas la GDC 2020. On nous dit que dans leur communiqué, les organisateurs disent avoir la ferme intention de compenser cette déception en organisant un événement GDC pour l'été, hein, donc pour l'été prochain. Le communiqué nous dit, je cite, « Nous allons travailler avec nos partenaires pour finaliser les détails et nous partagerons plus d'informations concernant nos plans dans les prochaines semaines. » En attendant, donc, nous dit l'article, hein, les exposants et participants vont tous recevoir un email leur expliquant la procédure de remboursement de leur billet d'entrée. Idem pour les réservations hôtelières. On nous rappelle hein, donc que dans le milieu, dans l'industrie, hein, plus précisément du jeu vidéo comme partout ailleurs, les mesures de précaution en lien avec la situation imprévisible hein, de ce virus causent le report ou l'annulation de nombreux événements à travers le monde, ainsi qu'un ralentissement des chaînes de production, comme le ressent d'ailleurs Nintendo en ce moment au Japon. Contactés dans la foulée, nous expliquons hein, de cette annonce, les organisateurs de l'E3 2020 disent se montrer particulièrement vigilants et comptent examiner l'évolution de la situation au quotidien, mais estiment hein, qu'il n'y a pour l'heure pas lieu de remettre en question la bonne tenue du salon de Los Angeles. Quelle que soit l'évolution de la situation, on en reparle bien sûr très prochainement dans l'émission. Triste nouvelle, le créateur du Konami Code est mort. Oui, effectivement, le japonais Kazuhisa Hashimoto avait inclus dès 1986 le fameux code, hein, le fameux Konami code, une séquence hein, de 10 touches hein, qui s'est ensuite cachée dans de nombreux jeux, mais qui a fait ses débuts dans le shoot hein, Gradius. Donc Monsieur Hashimoto nous a quittés hein, dans la nuit du 25 au 26 février à l'âge de 61 ans, nous dit lemonde.fr, et c'est le compositeur Yuji Takenouchi, ex-employé hein, comme lui de Konami, qui l'a annoncé. Et donc Monsieur Hashimoto était l'auteur hein, du plus célèbre des codes hein, des jeux vidéo, nous rappelle Le Monde, une suite de pressions sur les boutons de la manette qui permet d'accéder à des fonctionnalités cachées, deux fois haut, deux fois bas, gauche-droite, BA, un code qui a été moult fois repris, détourné, on ne compte plus les clins d'œil. L'article du Monde hein, nous rappelle que Monsieur Kazuhisa Hashimoto travaille depuis 5 ans chez Konami quand, en 1986, il est chargé d'adapter le très difficile jeu d'arcade Gradius pour la console Famicom de Nintendo. Et c'est pour pouvoir tester le jeu à la recherche de bugs, hein, sans avoir à se soucier des ennemis, qu'il a programmé cette séquence de 10 touches qui, une fois entrée dans l'ordre, gratifiait le développeur de 30 vies supplémentaires et d'un arsenal important. Découvert par les joueurs, le code devient pour eux un moyen de tricher et de voir la fin du jeu plus facilement. Donc il ne s'agit pas du premier cheat code, hein, nous rappelle le papier signé par Corentin Lamy d'ailleurs, je le précise, mais il s'est imposé, ce code, hein, comme le plus célèbre d'entre tous. Reproduit dans la suite des Gradius, hein, puis dans d'autres jeux Konami, notamment dans la série des Contra, il est aussi simple à retenir que les jeux de l'éditeur japonais sont difficiles et exigeants. Celui qu'on appellera par la suite le Konami code n'est plus cantonné aujourd'hui aux jeux Konami. On nous rappelle qu'en 2010, le code aux 10 touches a fait son entrée dans le livre Guinness des records, qui le considère comme le cheat code le plus utilisé dans les jeux vidéo. Selon le Guinness des records, le Konami Code figurerait dans au moins 151 titres. Les développeurs des autres studios, nous dit le papier du Monde, hein, de sites internet ou de programmes n'ayant rien à voir avec le jeu vidéo, s'amusent souvent à cacher des fonctionnalités ou des clins d'œil dans leurs travaux, accessibles seulement donc à la suite de ce code. On nous rappelle qu'en 2012, notamment en entrant le Konami Code sur le site de campagne de François Bayrou, il était ainsi possible d'accéder à une animation cachée reprenant l'esthétique des jeux vidéo japonais. On va parler de mes copains hein, de Platinum Games. Vous savez que mes copains, je ne les connais pas personnellement bien sûr, mais vous savez que c'est un studio que j'affectionne vraiment particulièrement. Sur NintendoDifference.com, donc, on a pu lire que Famitsu a dévoilé les grandes lignes du désormais projet GG, deuxième projet révélé pour le Platinum 4. Vous savez, Platinum 4, hein, Platinum 4, le site internet, le site teaser dont je vous ai parlé déjà il y a 15 jours dans l'émission, qui nous dévoile comme ça au compte-gouttes des nouveaux projets du fameux studio japonais. Donc après le retour, le remaster de Wonderful 101, on en a parlé longuement dans la dernière émission, il y a donc le projet GG, donc qui est le deuxième projet de Platinum 4. Nintendo Difference nous dit que pour l'instant aucun support n'a été précisé, mais le studio veut sortir ce jeu sur toutes les plateformes du marché, ce qui inclut donc d'office la Nintendo Switch, bien sûr, PlayStation 4, etc. On sait d'ailleurs à quel point les relations sont fortes, nous dit Nintendo Difference, hein, entre Platinum et donc Nintendo, ce qui renforce un peu plus les chances hein, de voir ce projet GG débarquer donc sur la console hybride. Ce projet donc sera quand même dirigé par Hideki Kamiya, excusez du peu, et se basera donc sur une toute nouvelle licence, et donc s'annonce comme le troisième volet de la trilogie de super-héros donc de Monsieur Hideki Kamiya. Monsieur Hideki Kamiya, je le rappelle, hein, Bayonetta, Beautiful Joe, Okami, réalisateur de Resident Evil 2, du premier Devil May Cry. Ce projet GG s'annonce donc comme le troisième volet de sa trilogie hein, de super-héros, le premier étant Beautiful Joe, excellent titre, et donc le deuxième étant The Wonderful 101. Donc là c'est un peu ambiance film kaiju avec un monstre énorme, un super-héros qui ne l'est pas moins, qui se bat autour d'immeubles. Il y a un joli petit chien, un Shiba d'ailleurs, si je ne fais erreur, dans le trailer qui était annoncé. Bon, voilà, ça fait envie, c'est Kamiya derrière, Inaba, etc. Toute la fine équipe, on a hâte d'en savoir plus. Comptez sur moi, dès qu'on a un petit peu plus d'infos, pour vous en parler. On va rester sur Platinum Games qui a annoncé également la création d'un studio à Tokyo, oui. C'est biggeek.fr qui nous en parle et qui nous dit que dans le but de relever de nouveaux défis et d'explorer de nouvelles possibilités en matière de développement et d'édition, donc Platinum Games va ouvrir une nouvelle structure en dehors de son bureau principal, et donc d'ici avril prochain, Platinum Games, hein, donc situé à Osaka, se renforcera avec Platinum Games Tokyo pour créer des jeux qu'on nous dit, qu'on nous promet, les plus divertissants possibles dont des productions live service avec les nouvelles avancées technologiques et les capacités de mise en réseau, donner naissance à des licences originales et de devenir sur le long terme le studio numéro 1 au monde, rien que ça, tout en étant désormais un éditeur. Kinichi Sato, hein, président et CEO de Platinum, est confiant concernant ce futur studio. Il nous dit, je cite, « Entre notre alliance de capitaux avec Tencent, le nouveau Platinum Games Tokyo et d'autres changements à venir, 2020 s'annonce comme une très grande année pour nous. C'est pourquoi nous considérons qu'il s'agit d'une année de rétablissement. Notre philosophie de conduite pour cette deuxième phase est que chez Platinum Games, tout le monde est un créateur. Cela va de soi pour notre équipe de développement, mais cela s'applique également aux créateurs d'entreprises en coulisses qui les soutiennent et apportent une contribution vitale au fonctionnement de notre compagnie. Chaque employé de Platinum Games a un intérêt à créer des jeux de haute qualité dans un environnement confortable et efficace. Ce but nous unifie alors que nous passons à l'étape suivante. » Quelques mots du réalisateur Motoi Fujita, un ancien DA Japan, hein, qui avait notamment travaillé sur FIFA Mobile, ça c'est Gamecult qui nous indique ça, et qui sera donc chargé de veiller sur les jeux services de Platinum Games sur console. Il nous dit, je cite, « Le studio de Tokyo est l'occasion pour Platinum Games de développer un type de jeu que le studio ne connaissait pas jusqu'ici. Pour s'occuper de ces jeux Live Ops, nous allons avoir besoin d'une équipe plus diversifiée que précédemment. Je pense que Tokyo est le meilleur endroit pour constituer un tel groupe. » Donc là encore, hein, je vous en dirai plus dès qu'on aura plus d'infos sur ces tout nouveaux projets de Platinum Games. La boîte, hein, le studio, nous l'avait dit et redit, nous avait beaucoup teasé cela en 2019, hein, que l'année 2020, justement, elle est une année vraiment charnière dans l'histoire du studio. Donc affaire à suivre, hein, comme on dit, quand on est un professionnel de la profession. Et enfin, je vais vous parler un petit peu d'Animal Crossing New Horizons. Ben oui, puisqu'il y a eu comme un Nintendo Direct il y a quelques jours de cela, un spécial Animal Crossing, hein, plus de 30 minutes, si je dis pas de bêtises, sur Animal Crossing. Donc, je vais pas vous retranscrire tout ce qui a été dit. Mais enfin, GamerGen compile tout cela. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, hein, dans la description de cet épisode. Vous pourrez voir ça. Vraiment, GamerGen détaille point par point tout ce qui s'est dit. Mais globalement, ce qu'il faut savoir sur cet Animal Crossing, qui va sortir là, bah dans quelques semaines, hein, le 20 mars plus exactement, c'est que les joueurs auront le choix de l'apparence, hein, de leur île déserte au tout début de l'aventure parmi des modèles prédéfinis. Il faut savoir qu'il y aura une île, hein, par console, mais vous aurez quand même le choix de l'apparence, hein, de cette île au tout début de l'aventure, malgré les modèles prédéfinis, ainsi que l'hémisphère faisant varier le cycle des saisons. Donc on nous dit que dans chacune d'elles, les activités pouvant être entreprises varieront et les décors évolueront. Ainsi, les cerisiers, par exemple, seront en fleurs au lancement du jeu et les insectes seront de sortie. En automne, la récolte de graines et de champignons occupera les résidents, tandis que la création d'un bonhomme de neige ou la contemplation d'aurores boréales feront partie des joies de l'hiver. Donc pour accompagner l'expérience au fil des mois, Nintendo effectuera des mises à jour régulières et proposera des événements. Bon, ça c'était... Hein, comme avant, j'ai envie de vous dire, hein, le premier dédié à Pâques étant prévu donc pour le 20 mars, hein, jour de sortie de cet Animal Crossing New Horizons sur Switch. Des installations majeures seront présentes sur l'île dès notre arrivée, le bureau des résidents, achat d'objets, atelier de crafting, personnalisation, etc. Où se trouve donc le fameux Tom Nook et l'aéroport, ouvert peu importe l'heure ou le jour, ce dernier permettra d'accéder aux îles des autres joueurs par internet et en jeu local jusqu'à 8 personnes pouvant vivre sur la même île à la fois. Jouer à plusieurs se fera en groupe de 4 avec un leader interchangeable à tout instant, avec des mots de passe temporaires pouvant être générés pour inviter des connaissances non présentes dans la liste d'amis. Un service postal servira lui à envoyer des messages, ce qui sera également possible via la fonction Nook Link de l'application Nintendo Switch Online à destination des smartphones, prévue d'ailleurs en mars juste après le jeu. Avec cette dernière, vous pourrez discuter à l'oral ou à l'écrit et même scanner des QR codes de New Leaf et Happy Home Designer. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont ces anciennes itérations de la série. Bref, plusieurs services seront à disposition des joueurs, hein, sur l'île. Chaque jour, il y aura un bulletin insulaire qui sera diffusé par Tom Nook, des objectifs à remplir, etc. Énormément de choses. Mais surtout, l'une des plus grandes nouveautés, c'est que vous allez pouvoir vraiment façonner d'autant plus votre île, faire des petites constructions, faire évoluer vraiment votre environnement, comme certains autres jeux bien célèbres. Mais visiblement, ça a été vraiment bien accueilli par les fans, le fait effectivement d'avoir un impact vraiment beaucoup plus saisissant sur la structure de vraiment des environnements, sur la topographie globale. Alors je ne sais pas si vous êtes saucé par cet Animal Crossing New Horizons. N'hésitez pas à me dire ça, hein, sur le compte Twitter de l'émission @revuedepresse.jv, tout collé sur le compte Facebook, sur le Discord. Bref, vous avez le choix des armes. Nous avons eu donc de nouvelles informations officielles sur la prochaine Xbox, hein, vous le savez, Xbox Series X. Bon, je trouve que le choix du nom n'est pas judicieux, je vous en ai déjà parlé, mais ce n'est que mon avis. Bref, la guerre des consoles, hein, qui nous passionne tous, se rapproche, hein, la fin de l'année va être explosive, et donc Xbox dégaine en premier, alors que Sony, hein, fait vraiment de la rétention d'informations, hein, en attendant, comme d'habitude, hein, de voir ce que Xbox, hein, ce que Microsoft dégaine en face. Donc, on a eu des informations officielles, et donc je me suis rendu naturellement sur Xboxygène, hein, excellent site, hein, traitant de l'actualité Xbox, donc ils nous font un petit topo là-dessus. Bon, tout d'abord, vous l'avez entendu partout, 12 teraflops, mon dieu, on se croirait revenu, vous savez, à la guerre des 16 bits, des 32 bits, des 64 bits, hein, là je parle aux plus anciens. Donc un processeur custom nouvelle génération, nous dit Xboxygène, hein, donc pour la Series X. Microsoft, nous dit le site, hein, rappelle que donc cette console disposera d'un processeur custom créé par AMD, avec donc non pas 9, non pas 10, non pas 11, mais 12 teraflops de puissance de GPU, deux fois plus donc que la One X, hein, et 8 fois plus au moins que la Xbox One originale, ce à quoi on peut ajouter que l'architecture de cette nouvelle puce sera bien plus efficace que la génération actuelle. Nous avons aussi le Variable Rate Shading. Qu'est-ce que c'est ? Xboxygène nous éclaire à ce sujet. Donc on nous dit qu'on parle depuis un petit moment de cette techno, mais c'est la première fois donc que Microsoft en parle officiellement pour la Series X. Je cite, « Plutôt que d'utiliser chaque cycle de GPU uniformément pour chaque pixel à l'écran, ils peuvent désormais prioriser des effets individuels sur des personnages ou des objets particuliers. Cette technique permet un framerate plus stable et une meilleure résolution sans aucun impact sur la qualité de l'image finale. » Eh ben écoutez, c'est très bien. Nous avons aussi le DirectX Ray Tracing, le fameux Ray Tracing, hein, la nouvelle techno quand même à la mode, j'ai envie de vous dire. Donc on le savait déjà, nous dit Xboxygène, hein, mais Microsoft rappelle donc que la prochaine Xbox bénéficiera bien du Ray Tracing DirectX accéléré au niveau matériel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc des effets de lumière, des réflexions et une acoustique réaliste, le tout en temps réel au cours de votre exploration de l'univers du jeu. Stockage SSD, oui, les nouvelles consoles, vous le savez aussi, vous ne le savez que trop bien, j'ai envie de vous dire, seront équipées donc, et c'est le cas aussi de la PS5, donc de disques durs SSD. Bon, ça c'est pour améliorer effectivement les temps de chargement. Avec cette nouvelle génération donc de stockage SSD, nous dit-on, c'est l'ensemble de l'expérience de jeu qui sera améliorée. Les univers de jeu plus larges et dynamiques en bénéficieront avec le Fast Travel, hein. On se rappelle aussi que Sony de son côté avait fait une démo sur l'architecture PS5 avec le jeu Spider-Man, où là on pouvait vraiment faire du fast travel, en veux-tu, en voilà, avec un temps de chargement limité à sa plus simple expression. Intéressant a été annoncée la fonctionnalité Quick Resume. Alors qu'est-ce que c'est ? Xboxygène nous dit que cette fonctionnalité va permettre de mettre plusieurs jeux en pause en arrière-plan sur Xbox, donc Series X. Cette nouvelle fonctionnalité donc vous laisse revenir à de multiples jeux laissés en pause presque instantanément, vous ramenant à l'endroit où vous étiez, etc., au cœur de l'action, blablabla. Donc ça, c'est vraiment une des fonctions les plus intéressantes, je trouve, c'est-à-dire que vous pouvez lancer X jeux, hein, c'est le cas de le dire, excusez-moi, X jeux en même temps, et vous pouvez switcher de l'un à l'autre, sachant que chaque jeu s'est mis en pause, hein, en veille, et vous n'êtes pas obligé de relancer le jeu depuis le début, vous pouvez reprendre votre partie là où elle en était. Alors combien de jeux pourront rester comme ça en pause active, hein, j'ai envie de dire, qui bénéficieront donc de ce Quick Resume ? On ne sait pas s'il y a une limite, en tout cas pour l'instant, au moment où j'enregistre l'émission, on ne sait pas. J'imagine quand même un bon nombre, hein, j'espère qu'il y aura un minimum quand même de 4, 5, 6 jeux, voilà, où on pourra comme ça laisser en pause. A été aussi confirmé entre temps, pendant que j'enregistre l'émission, que cela fonctionnera d'après Microsoft, même en éteignant la console, c'est-à-dire même vraiment en éteignant et en ne mettant pas forcément juste la console en veille, vous pourrez comme ça bénéficier du Quick Resume et reprendre votre partie laissée en suspens sur différents jeux. Bon, ça c'est vraiment très très intéressant, j'ai hâte de voir ce que Sony va répliquer à ça. Nous avons donc aussi le Dynamic Latency Input, hein, autrement dit DLI pour les intimes, hein, une optimisation, hein, de latence au sein du lien joueur-console, alors on nous dit le site, hein, en commençant donc par la manette qui tire le maximum de ce protocole propriétaire de communication sans fil au moment de la connexion à la console. Donc avec le DLI, une nouvelle fonctionnalité qui en fait synchronise immédiatement l'input avec ce qui est affiché, les contrôles sont encore plus précis et réactifs. Nous avons aussi le HDMI 2.1, au programme. Donc la Xbox Series X sera donc compatible, sachez-le, avec la norme HDMI 2.1 qui permettra à la fois de supporter des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 FPS, mais aussi de profiter de technologies déjà connues comme le Variable Refresh Rate, hein, le VRR, hein, et l'Auto Low Latency Mode, ALLM, hein, si vous êtes copain avec lui, hein, pour les intimes. La ALLM permet concrètement, hein, au Xbox One et Xbox Series X de régler automatiquement le moyen d'affichage à son mode de latence le plus faible. VRR synchronise lui le taux de rafraîchissement du moyen d'affichage au framerate du jeu, maintenant donc un aspect visuel fluide et sans tearing. Beaucoup de termes techno, mais bon, c'est la guerre des consoles, c'est normal, et concrètement dans le jeu ça peut s'avérer très très intéressant. La compatibilité avant tout, nous dit Xbox IGN. Oui, on nous dit que la prochaine génération donc de consoles Xbox va introduire un changement de paradigme dans la façon de penser les générations, puisque les deux fabricants, et Sony donc y compris, hein, ont déjà communiqué sur la rétrocompatibilité de leur prochaine machine. Côté Xbox, hein, Phil Spencer promet une rétrocompatibilité, pas facile à dire qu'on est fatigué, sur 4 générations. Attention cependant, nous dit Xbox IGN, si vous pourrez jouer à n'importe quel jeu Xbox One sur la Series X, il en sera tout autre pour les jeux Xbox 360 et Xbox première du nom. En effet, pour ces deux générations-là, précisément, seuls les titres jouables sur Xbox One le seront sur Series X. Bon, ça me paraît tout à fait logique. Le site poursuit que, comme nous le connaissons à l'heure actuelle, tous les jeux rétrocompatibles bénéficieront d'améliorations automatiques, comme des temps de chargement réduits ou un taux de rafraîchissement plus stable, par exemple. Donc, vos jeux favoris, nous dit Xbox IGN, hein, incluant le catalogue du Xbox Game Pass, bénéficieront donc d'un framerate plus stable, de temps de chargement plus rapide, ainsi que d'une résolution et d'une fidélité visuelle améliorée, et ce, sans aucun travail de développement. Les accessoires Xbox One feront aussi le voyage vers la nouvelle génération. Et donc bien sûr, le Xbox Game Pass sera bien entendu compatible dans sa totalité, et Microsoft profite de l'occasion pour réaffirmer sa stratégie de densification, attention, quel beau, quel joli mot, de densification de l'offre et de la disponibilité des jeux first party dans le service dès leur lancement commercial. Et autre annonce aussi très importante, le Smart Delivery, une politique pro-consommateur, car si ce communiqué de Microsoft, nous dit Xbox IGN, ne nous apprend pas grand-chose de nouveau, il a au moins le mérite de clarifier une question que beaucoup se posaient. Faudra-t-il racheter les jeux que nous possédons déjà pour profiter de leur version Next Gen ? Pour la première fois dans l'histoire des consoles, roulement de tambour et sonnet trompette, un achat ne sera pas lié à une génération de consoles. Attention cependant, nous prévient Xbox IGN, si cette fonctionnalité sera utilisée nativement pour tous les jeux issus, hein, des Xbox Game Studios, elle ne sera pas requise pour les éditeurs tiers. Microsoft leur laissera le choix. Je trouve que c'est vraiment une politique très intéressante, et je le dis d'autant plus détendue que, car vous savez que moi je suis plutôt Sony Nintendo et beaucoup moins Xbox. Mais je trouve vraiment ces décisions très très intéressantes. Donc on nous dit que la technologie Smart Delivery vous permet d'être sûr que vous n'ayez à acheter qu'un seul titre et qu'une seule fois, que ce soit sur Xbox One ou Series X, pour obtenir la version de jeu adaptée à la console sur laquelle vous jouez. Microsoft nous dit, je cite, hein, « Nous nous engageons à utiliser cette technologie pour nos titres Xbox Game Studios, incluant Halo Infinite ». Donc vous l'aurez compris, Microsoft, vraiment là, est passé dans une nouvelle phase, hein, de communication. Tout ceci promet quand même une belle foire d'empoigne, j'ai envie de dire, avec les autres constructeurs, enfin Sony, hein, en premier lieu. Nintendo, comme d'habitude, est un petit peu à part. Reste à voir la réplique Sony, dont on attend encore vraiment énormément d'infos concernant la PlayStation 5. Peut-être au moment là où vous allez écouter cette émission, Sony a peut-être balancé entre-temps des cartouches, mais quoi qu'il en soit, on en reparle très très vite, hein, dès que de nouvelles comme ça, révélations techniques ou de services ou que sais-je, sortiront afin d'alimenter vraiment cet affrontement qui s'annonce des plus captivants. Vous aimez la revue de presse JV et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties. Eh ben, il y avait une page Tipeee pour cela. Il y a toujours une page Tipeee pour cela. Et je remercie d'ailleurs tous les tipeurs vraiment de me soutenir. Merci à eux. Mais en plus du Tipeee qui reste en place, hein, si vous êtes sur Tipeee, ça ne change rien. Il est en place, ça ne bougera pas. Mais en plus du Tipeee, il y a maintenant aussi un Patreon. Le Tipeee n'est plus seul, il a un camarade. Donc c'est patreon.com/la-revue-de-presse-jv tout collé. Vous pouvez me soutenir via Patreon, comme vous pouvez me soutenir donc sur Tipeee. tipeee.com/la-revue-de-presse-jv. Vous savez, donc ça vous donne maintenant deux moyens pour me soutenir. Les contreparties sont les mêmes, les paliers sont les mêmes. Les contreparties, donc, je les rappelle, hein, c'est avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications tout au long de la semaine. Donc ça, sur la page Tipeee et sur la page Patreon, maintenant, vous avez accès à cela. C'est-à-dire qu'au fil des jours, vous pouvez voir vraiment l'émission, le chemin de fer de l'émission, le sommaire se construire avec ses modifications, etc. Vous avez donc la possibilité d'avoir accès donc, à toutes les news hein, de l'émission. Chaque mois, je fais un point sur l'audience, par exemple. Parfois, je vous fais des petits billets, etc. Donc ça, c'est que pour les tipeurs et pour les Patreons. Aussi, maintenant, désormais. Vous avez la possibilité donc de proposer des sujets pour la brochette de news, des coups de gueule, des coups de cœur, vous le savez. Et vous avez aussi la possibilité de participer à la grande revue de presse JV ou de chez vous, tranquillement, avec votre micro, votre connexion internet. Vous pouvez participer donc à cette grande émission à mes côtés. Voilà, donc désormais, il y a le Tipeee, il y a aussi le Patreon. Donc si vous voulez me soutenir, je vous en remercie vraiment grandement. Et je fais mille bisous vraiment à ceux sur Tipeee et au futur. Sur Patreon, de me soutenir, car vraiment, cet engagement que vous avez envers l'émission, c'est vraiment ce qui me donne la patate de n'avoir aucun jour de repos, finalement, car je fais l'émission, vous le savez, le week-end, et certains soirs de semaine, en plus de mon boulot, et au-delà du type, de l'aspect financier, c'est vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission, bah, ça me touche vraiment toujours beaucoup. Donc j'ai un coup de gueule et un coup de cœur cette semaine. Coup de gueule, tout d'abord de MachinTruc76 qui nous dit, donc ça c'est sur le Discord hein, de l'émission, je viens de voir que FF7 Remake donc, va proposer des invocations en DLC. Même si je ne jouerai certainement pas à ce jeu, ça me choque. Déjà le jeu sera découpé de manière épisodique et gonflé avec des quêtes annexes pour tenir la longueur. Et si en plus on rajoute des DLC sur le contenu qui doit être normalement de base, il y a de quoi perdre son latin. On leur a dit chez Square Enix que ce n'était pas un jeu mobile FF7. Alors effectivement, ça m'a un petit peu choqué aussi. Vous savez que c'est l'un des jeux que j'attends le plus, hein, moi, ce FF7 remake, avec The Last of Us Part 2, avec le remake de Resident Evil 3, et d'autres jeux aussi. Enfin, ce début d'année est fou. Oui, ça m'a un petit peu choqué aussi. Donc je peux comprendre ce coup de gueule de MachinTruc76. Coup de cœur de VaniFraise qui nous dit « Définitivement, la démo de Langrisser 1 et 2, c'est mon coup de cœur. » J'avais acheté la compilation des deux premiers sur Saturn dans un bac à soldes pour la cover de Satoshi Urushihara, que je connaissais pour d'autres travaux que celui-ci avait réalisé, et j'avais été surpris par la qualité de ce tactical RPG. C'est vrai que ce chara-designer est très très célèbre, notamment, si je dis pas de bêtises, pour ses personnages féminins et pour des détails assez précis que je n'évoquerai pas dans cette émission. Bref, VaniFraise nous dit « Le jeu sort mi-mars avec quelques ajouts comme la possibilité laissée aux joueurs de choisir un style moderne ou rétro pour les musiques et les illustrations narratives. Les connoisseurs préféreront sans doute les styles rétro, notamment pour les illustrations qui, bien que datées, sont fondatrices de l'identité de la licence. » Oui, parce que je crois même qu'il a fait partie, hein, Monsieur Urushihara, avec son chara-design, vraiment, il a participé énormément au succès. Vu que c'était vraiment l'un des dessinateurs, j'ai envie de dire sexy câlin, hein, pour ses personnages féminins, l'un des plus vraiment célèbres de l'époque. Je crois qu'il a marqué les esprits et encore resté dans les têtes de bien des fans de ce type de graphisme. En tout cas, voilà, c'est dit. Merci MachinTruc76, merci VaniFraise. Et donc, eh ben, n'hésitez pas, hein, cher tipeur ou cher patron, de me faire part de vos coups de gueule et vos coups de cœur pour la semaine prochaine. Cette semaine, j'avais envie de refaire un point sur le remake de Resident Evil 3. Vous le savez, le jeu sort le 3 avril, donc dans un petit mois, ça approche, que j'ai hâte. Et donc, le mois dernier, on avait déjà fait un point sur les dernières infos. On sait qu'une démo approche, des nouvelles vidéos, des influenceurs, des youtubeurs, des journalistes, tous y vont de leurs petites vidéos. Alors moi j'essaye de me spoiler le moins possible, même si je connais le jeu par cœur, hein, le jeu de l'époque, PS1. Je rappelle que Resident Evil 3 était le dernier de la trilogie PlayStation. Et donc là, sur l'excellent, toujours hein, excellent Biohazard France.net, hein, que je vous conseille régulièrement, mais c'est vraiment la bible hein, française, si vous êtes fan de Resident Evil. Biohazard de France, donc, qui nous a ramené la traduction d'une interview donnée sur le site japonais Game Watch. Une interview où Monsieur Kawata, le producteur hein, de ce remake, et Monsieur Sakata, le directeur, se laisse aller à quelques confidences, n'est-ce pas ? Tout ceci bien maîtrisé par le marketing de Capcom, mais si vous attendez le jeu comme moi, c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre d'informations. Et donc sur le pourquoi du comment de ce remake, Monsieur Kawata, donc le producteur, nous dit, je cite, « Le premier pan de Resident Evil comportait 3 épisodes et je voulais vraiment réaliser un arrangement moderne de l'épisode 2 et 3. Par conséquent, nous avons mis réellement en chantier Resident Evil 2 en premier avant de passer au développement du troisième grâce à l'expérience obtenue donc hein, sur RE2. » Quant aux différences, Monsieur Kawata nous dit que Resident Evil 2, donc le remake, hein, a été relativement fidèle, il est vrai, à l'opus original. Pour Resident Evil 3, le concept du jeu, nous dit-il, n'a pas changé, mais nous avons ajouté divers arrangements dans la progression ainsi que certains détails. RE3 était un jeu d'horreur. Nous avons d'abord pensé au divertissement cette fois. Donc là je fais une petite parenthèse, donc c'est plus axé action, comme c'était le cas déjà hein, sur la trilogie originale, hein, du 1 au 2 et du 2 au 3, l'action prenait toujours un peu plus de place. Il nous dit donc RE3 sera un remake avec une aventure allant dans ce sens. Concernant l'action justement, Monsieur Sakata, hein, donc le directeur du jeu, nous dit, je le cite, « Le développement de Resident Evil 3 Nemesis, donc hein, sur PlayStation, première du nom, est parti d'un point de départ, celui de créer un Resident Evil qui devait être un peu plus facile à jouer et plus orienté vers l'action. » Je refais une parenthèse, hein, c'était surtout pour faire attendre les fans par rapport à Code Veronica qui mettait du temps à sortir. Pour la petite anecdote d'ailleurs, Shinji Mikami voulait appeler Resident Evil 3 Resident Evil 2.5. C'est vrai que c'est un épisode qui fait plus office de 2.5, mais bien évidemment, dans les hautes sphères de Capcom, on a jugé à juste titre hein, que de vendre un jeu estampillé 2.5, c'était pas très vendeur. Bon, je referme la parenthèse. Monsieur Sakata, directeur, nous dit donc que Resident Evil 3 Remake nous amène donc en extérieur, comme le jeu original, hein, comme une étape logique, nous dit-il, après les expériences terrifiantes de confinement rencontrées dans Resident Evil 7 et Resident Evil 2. On retrouvera donc, nous dit-il, une expérience de peur dans les pièces fermées, mais l'action sera renforcée dans les phases en extérieur. Là encore, un petit peu à l'image hein, du jeu original sur PlayStation, première du nom. Il nous dit, Monsieur Sakata, on a essayé de faire la même chose que pour RE3 à l'époque, voilà ce qui vient de confirmer ce que je viens de vous dire, on s'y retrouve. Concernant le Nemesis, alors le Nemesis, je le rappelle, hein, c'est ce personnage hérité de Mr. X hein, de Resident Evil 2 qui vous poursuit tout au long du jeu. Dans le jeu original sur PlayStation, hein, il y avait d'ailleurs des scènes où vous deviez faire différents choix lorsque son chemin croisait le vôtre. Hein, ces différents choix ne seront plus disponibles dans ce remake, mais le Nemesis aura un rôle, j'ai l'impression, encore plus important hein, que dans le jeu original. Donc, Monsieur Sakata, le directeur, nous dit à propos du grand costaud Nemesis, je cite, « Le nouveau Nemesis a été pensé pour surpasser le tyran de Resident Evil 2, qui rappelait déjà le Nemesis hein, de RE3. » Le joueur qui a affronté le tyran dans RE2 s'attend à ce que Nemesis soit encore plus effrayant. Le nouveau Nemesis a donc été pensé pour surpasser le tyran. Je pense que cet objectif nous a permis d'améliorer le Nemesis. Cette conception du Nemesis est l'engagement du directeur artistique. Dans l'épisode original, le Nemesis est un prototype ABO. Hein, donc ABO, je le rappelle, c'est pour arme bio-organique, hein, soit BAO, hein, B-O-W en anglais. Monsieur Sakata donc, nous précise que ce design hein, de départ du Nemesis a été adopté. Ce nouveau design hein, que vous pouvez voir, hein, c'est vrai qu'il a toujours ce costume, mais qui a été vraiment plus stylisé hein, pour lui donner un aspect plus cool avant qu'il se détériore au fur et à mesure, hein, comme ceux qui ont déjà fait Resident Evil 3 voilà, le savent très bien. Il nous rappelle aussi le fait qu'il a un nez, hein, maintenant le Nemesis version 2020 a un nez hein, qui est basé sur le tyran. Monsieur Kawata, le producteur, nous dit, je cite, « J'ai aussi dit au directeur artistique, votre nez n'est-il pas un peu étrange ? Et il m'a alors convaincu qu'il s'agissait d'une plantation de parasites à compatibilité ascendante basée sur le tyran. » waouh, et qu'il s'agit donc d'un prototype inachevé. Je sais pas ce qu'ils prennent chez Capcom, mais je veux la même. Monsieur Sakata, directeur, hein, je le rappelle, nous dit, je cite, « Par le passé, lorsque les spécifications matérielles étaient très restrictives, bon nombre de désirs de conception n'ont pu s'exprimer. Pour Resident Evil 2, les zombies comportaient 180 polygones sur le corps. Mais dans RE3, étant donné que je voulais envahir les rues avec plus de zombies, j'ai dû les réduire à environ 120 polygones. Je pensais que les zombies étaient en carton-pâte. » Rire, hein, entre parenthèses. « À l'époque, ça faisait tellement mal pour un développeur d'être limité dans la conception de ses travaux. » Donc là, maintenant, avec surtout le superbe moteur qui est vraiment... Une merveille hein, que Capcom utilise, ils peuvent s'en donner à cœur joie pour rendre les rues de Raccoon City plus effrayantes que jamais. D'ailleurs, concernant les rues de Raccoon City, le journaliste japonais indique à Monsieur Sakata qu'effectivement, il y a beaucoup d'éclairage et de néons dans Raccoon City. Vous avez pu voir ça d'ailleurs dans les dernières images ou vidéos, si vous les avez vues, qu'il y a un contraste très intéressant entre les ruelles très sombres de Raccoon City et ces néons qui sont vraiment mis d'autant plus en avant. Alors, dans le jeu original, les rues de Raccoon City sur PlayStation 1 déjà étaient magnifiquement belles. Là, ils ont renforcé quand même le côté néon qui était déjà là à l'époque. Là, c'est vraiment... voilà, on les voit d'autant plus dans ce remake. Et le journaliste demande donc si l'histoire se passe la nuit tout du long. Je le rappelle, ce qui était le cas sur PlayStation. Hein. Monsieur Sakata donc répond, je cite, « La météo hein, dans le RE3 original était nuageuse. Donc la différence à matérialiser entre le jour et la nuit n'était pas évidente. Je voulais exprimer le fait qu'il faisait beau la journée, mais l'intrigue se déroulait donc la nuit. Il y avait diverses limites techniques à l'époque et il était très difficile de faire disparaître une route lumineuse dans la torpeur de la nuit. De plus, à l'époque, peu de programmeurs connaissaient la méthode hein, pour matérialiser cette transition entre le jour et la nuit. » Le journaliste japonais dit que les effets d'ombre et de lumière sont très réussis, ainsi que les effets sonores. Et Monsieur Sakata répond « Oui, c'est vrai, c'était déjà le cas depuis RE7, puis avec RE2. Mais comme Resident Evil est une saga horrifique, nous attachons une attention très particulière sur le développement sonore et aux effets d'ombre et de lumière. Bien sûr, c'est aussi vrai pour RE3 qui bénéficie de toute l'expression du moteur graphique RE Engine. » Je pense que le résultat exprimé à l'écran sera de la même qualité que pour RE2. J'essaie de pas trop me spoiler, même si je connais l'histoire par cœur du jeu original, mais beaucoup de nouveautés apparemment vont être apportées dans ce remake. Du peu que j'en ai vu, le RE Engine fait encore des merveilles. Je pense que c'est vraiment l'un des moteurs les plus performants du moment. Alors, vient le sujet de l'apparence de Carlos, puisque si vous avez fait le jeu sur PlayStation 1, vous savez que cette brave Jill Valentine est accompagnée de Carlos, que l'on incarne de temps à autre dans le jeu. Donc l'apparence de Carlos, dit le journaliste japonais, semble radicalement différente cette fois. Qu'est-ce qui a mené à ce nouveau look ? Monsieur Sakata répond, je cite, « Carlos se présente comme un partenaire dans cette histoire. Il tombe sur une femme célibataire nommée Jill et il tente d'échapper à une apocalypse zombie sans précédent. » C'est marrant de préciser qu'elle est célibataire. Bon, continue à vous rapporter la réponse de Monsieur Sakata. Il nous dit, à l'origine, Carlos était très jeune et d'apparence physique plutôt faible. Cette fois, nous voulions exprimer quelque chose de différent. Nous avons donc changé le design de Carlos en un homme fort. À l'origine, Carlos est originaire d'Amérique du Sud, mais il nous est aussi apparu également important qu'on ne puisse pas déterminer sa provenance. Vous pourrez d'ailleurs l'incarner dans la version finale. Soyez donc patient. Enfin, dernière question dernière réponse hein, fatalement que je vous rapporte ce matin, mais je vous incite vraiment à lire l'intégralité de cette interview sur Biohazard de France.net. Quel est le point le plus marquant donc de ce nouveau RE3 demande le journaliste hein, japonais. Bon, là on est un peu dans l'interview marketing, mais enfin ça nous apporte des infos, donc c'est quand même intéressant de les relier. Monsieur Sakata donc nous dit que la position entre le jeu original et ce RE3 n'a pas changé, si ce n'est bien sûr, nous dit-il, que l'apparence et la qualité graphique ont été améliorées et que l'histoire a été repensée de diverses manières, tout en retraçant correctement le scénario original. Nous avons fait, précise-t-il, en sorte que les joueurs qui ont joué à l'opus original puissent vivre des sensations différentes à travers ces nouveautés. Probablement que beaucoup de joueurs qui ont fini RE2 s'intéresseront à RE3 et l'achèteront. La connexion opérationnelle avec RE2 est correctement suivie et nous avons fait de sorte à ce que l'action soit mise en place en douceur. Elle renforcera la saveur de ce RE3 qui se déroule dans un espace extérieur et qui ne se cantonne pas aux espaces clos voulus dans une atmosphère d'horreur. Elle sera donc légèrement différente. Je pense que de nombreux fans récents de Resident Evil, qui ont commencé avec RE7 puis RE2, je pense à ces fans et je pense que le point le plus important est que ces personnes puissent vivre l'horreur différemment au-delà d'un simple environnement fermé. Bon voilà, après il y a un petit peu de discours un peu plus marketing, hein, avez-vous un message aux fans, etc. Mais bon, quand on est fan de Resident Evil, ce qui est mon cas, c'est toujours intéressant. Et je sais que grâce à RE7 et au remake d'RE2, beaucoup de nouveaux joueurs, hein, de nouvelles personnes s'intéressent à la saga. Donc je me suis dit que voilà, pour l'édition de cette semaine, ça vous intéresserait, fans et peut-être fans de longue date et fans un peu plus récents, ou juste curieux, voilà, que ça vous intéresserait peut-être, probablement, d'avoir quelques nouvelles infos sur ce RE3 remake. Voilà, donc ma mission a été remplie, je pense, avec brio. Et cette semaine, une petite rubrique supplémentaire. Alors pour ceux qui suivent l'émission depuis très longtemps, vous devez vous rappeler que mon fils Axel vous avait fait une critique de Pac-Man. Ça, c'était dans la saison 2, hein, de la revue de presse JV. Et là, bah vous le savez, mon fils a une chaîne YouTube qui s'appelle Axel Game Center. N'hésitez pas à vous y abonner. Il a sa petite chaîne YouTube avec des règles strictes que son papa, c'est-à-dire moi-même, a imposées. C'est-à-dire qu'on ne voit pas son visage, qu'il ne donne pas d'informations personnelles. Ça, je suis très très carré là-dessus. Mais c'est sympa ce qu'il vous fait découvrir des jeux, que ce soit du rétro, des grands succès, des jeux un peu plus confidentiels. Bref, il y a de la bonne humeur, j'ai envie de vous dire, donc n'hésitez pas, hein, pour vraiment les joueurs de 7 à 77 ans, voilà, je lui fais sa pub au passage. Et la dernière vidéo concernait un jeu qu'il a trouvé donc tout seul, qui s'appelle Brainout, qu'on peut jouer sur tablette et smartphone. Et smartphone, avec mon super accent. Et donc, alors, Brainout, c'est un jeu gratuit. On va peut-être prévenir tout de suite qu'il y a beaucoup de pubs dedans, ça c'est normal, c'est un jeu gratuit, donc il faut bien, voilà, que les créateurs ramassent quelques piécettes. Alors, Axel, est-ce que tu peux nous dire déjà en quoi consiste le principe de Brainout?
En fait, Brainout, c'est un jeu d'énigmes qui sont quand même pas mal compliquées, et quand vous faites quelques énigmes, votre cerveau se met à fumer.
Carrément. Alors, comment ça se passe en fait quand tu lances le jeu? C'est plusieurs énigmes, l'une après l'autre, et on peut pas passer à la suivante si on n'a pas résolu la précédente?
Si, si, c'est tout à fait possible de passer les niveaux ou même d'avoir la solution. Ah oui, et je vous l'ai même pas prévenu, chaque jour où vous utilisez Brainout, vous récupérez des clés, et c'est grâce aux clés qui va vous permettre de faire passer des niveaux ou avoir la solution. Pour passer un stage, faut dépenser 2 clés, pour avoir la solution, faut une clé. Alors, comment passer les niveaux et comment avoir la solution? En fait, pour avoir la solution, faut que vous cliquez sur la clé... Vous cliquez sur la clé, et puis pour passer, vous cliquez sur les deux flèches.
Donc ça, en fait, ils sont malins, c'est que, comme beaucoup de jeux sur tablette et smartphone, ils nous obligent à revenir souvent pour gagner des clés. Comme ça, si on bloque sur une énigme, on peut la passer, soit demander la solution, soit la passer, comme tu viens de le dire. Alors ces énigmes, ça consiste en quoi? En fait, je précise juste aux auditeurs, c'est que à chaque fois sur un écran, on nous pose une question, et c'est avec le tactile en général, ou parfois en déplaçant la tablette ou le smartphone, qu'on trouve la solution. Et parfois c'est des solutions complètement rigolotes, où il faut parfois peut-être mettre sa logique de côté, essayer de réfléchir à une astuce rigolote. C'est un jeu où on rigole beaucoup, parce que parfois la solution elle n'est pas celle qu'on croit.
Alors déjà, le plus important, je voudrais parler aux auditeurs quelles sont les énigmes qui m'ont le plus marqué.
Voilà, oui. Est-ce que tu as quelques exemples d'énigmes?
Alors déjà, il y a eu une énigme de malade, de cinglé, où on devait entrer un mot de passe dans un coffre et on ne savait pas, il était difficilement trouvable. Et en fait, il fallait monter le volume et puis ça zoomait l'écran et on pouvait voir le mot de passe en fait.
Voilà, donc c'est des petites astuces comme ça. Je parle aux plus vieux là qui nous écoutent, dignes d'un Hideo Kojima. Où parfois il va falloir vraiment détourner tout ça. Moi je me rappelle d'une énigme que tu m'avais montrée. Bon, on va juste spoiler celle-ci, puis après on arrête, on vous laissera découvrir. Où il y avait, et peut-être Axel en dira encore une autre après. Voilà, donc pas plus de 3. Moi je me rappelle de celle des feux de camp, où ça nous montre 4 dessins de feux de camp. On nous demande quel est le plus gros, alors qu'ils sont complètement identiques au niveau des proportions. Et en fait il suffit, avec le tactile, de rassembler tous ces feux de camp en un, pour en créer un gros, et on trouve l'énigme comme ça. Est-ce que t'as, pour terminer, est-ce que t'as un autre exemple d'énigme rigolote?
Oui, tout à fait. Alors en fait, il y avait une énigme encore sur un coffre où il fallait entrer des chiffres pour le code, mais il se trouve que en fait, il n'y avait aucun chiffre. En fait, il fallait déplacer le texte mot de passe dans le truc où on marque les chiffres. Et c'était ça la bonne réponse.
D'accord, donc sur la question qui était marquée au-dessus du coffre, il fallait prendre le mot, enfin les lettres qui constituaient le mot mot de passe, et hop, le mettre sur le coffre pour gagner.
C'était pas sur la question, c'était sur le coffre, c'était marqué « Entrez le mot de passe ».
D'accord, ok. Alors bon, il est vachement amusant, c'est vrai que bon, il est gratuit déjà. Le seul défaut, on va peut-être en parler, donc c'est les pubs sur ta vidéo qu'on a fait sur YouTube. Moi, avec le montage, j'ai coupé les pubs entre les énigmes, mais c'est vrai que, bon, bah, comme il est gratuit, entre chaque énigme, à chaque fois, on se tape une petite pub vidéo pour un autre jeu. Est-ce que ça, c'est un peu agaçant ou t'as la patience de supporter toutes ces publicités ?
En fait, moi, je peux supporter les pubs, mais pour certaines personnes, ils en peuvent plus. Ça dépend pour quelles personnes qui peuvent supporter les pubs, qui ne peuvent pas supporter. Ça dépend pour qui.
Est-ce qu'il y a d'autres défauts sur ce jeu que tu aurais relevé ?
Personnellement, je ne sais pas trop. Parce que, en fait, Brainout, c'est un très gros avantage. Ça permet de travailler ses méninges. Et puis, Brainout, c'est super utile. Donc, je vois vraiment pas d'autres inconvénients sur ce jeu. Parce que ça travaille l'intelligence, c'est super utile. Après, faudra le dire... en commentaire sur Twitter si vous avez testé le jeu et qu'il y a un autre inconvénient que vous pensez.
Oui, voilà. Donc, si vous trouvez qu'il y a des inconvénients, n'hésitez pas, à part les pubs, hein, ça me paraît évident. Pour finir, est-ce que tu penses que ça, c'est que pour les enfants ou est-ce qu'on peut y jouer en famille avec ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins, ses amis ?
Eh bien, justement, il y a eu un niveau spécial 1 où ils nous proposaient avec qui voulez-vous jouer à Brainout ? Ils proposaient tous famille... collègues, amis, et puis la dernière, je sais plus. Et bah pour moi, Brainout, c'est un jeu pour famille, honnêtement. Ou amis. Parce que Brainout, c'est vraiment un jeu très sympathique, et quand on a besoin d'un coup de main, ça permet de réfléchir ensemble.
Eh ben très bien, je pense que c'est une bonne conclusion. Donc si vous voulez télécharger, nous c'est sur un système iOS, mais je pense que sur Android il est disponible aussi. Donc Brainout, hein, Brain, cerveau, hein, je dis ça pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, et out, hein, O-U-T, c'est gratos à trouver. Donc bah, merci Axel pour ce conseil et peut-être à une prochaine fois pour un autre conseil de jeu.
Merci à vous d'avoir écouté le podcast. Surtout pensez à jeter un œil à ma chaîne Axel Game Center.
Allez, on passe à la suite. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous donnera panache et robustesse pour la semaine, pour les jours à venir. J'aimerais remercier donc les tipeurs de l'amour. Merci vraiment mille fois pour votre soutien, c'est super important. Donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir vraiment mon travail, cette émission, n'hésitez pas. Le Tipeee est là, est ouvert 7 jours sur 7. Un grand merci à Bertrand Amar, coucou mon Bertrand. Merci à Crocodine, merci à Mallory, merci à Neo Calimero, à Pipoletsu, à Mopral, coucou mon Mopral, à Trifon, à Siwididju, à Electrotactics, à Tophobie, à Fabien, à Yvan Le Pierrot, à MachinTruc76, coucou MachinTruc, Garan, HXC, Lina Nounette, coucou Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas, Vanifraise, X, Nihili, Carnoct, Melcoq, Luterian, Aza, Slecoanet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A et aussi Gontran sur Patreon. Merci, merci à toutes et tous. Merci pour votre soutien sans faille, vraiment, qui est le carburant de cette émission. Merci à toutes les auditrices, tous les auditeurs, quels qu'ils soient. Je vous embrasse bien fort. Oui, je vous fais d'énormes bécos et je vous dis donc à tantôt. Allez, bye bye.